VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal présidentiel au Kenya. La Commission électorale nationale kenyane pourrait annoncer dans l'après-midi le nom du vainqueur du scrutin de mardi. Le président sortant Uhuru Kenyatta, 55 ans, disposerait de 1,5 million de voix d'avance sur son principal rival Raila Odinga, selon des résultats partiels portant sur la quasi-totalité des bulletins. Et le chef de l'État semble en passe de remporter son second et dernier mandat de 5 ans. Mais Raila Odinga, 71 ans, conteste ses résultats et son parti, la NASA, l'a déclaré vainqueur du scrutin jeudi en disant se baser sur les résultats transmis par une source secrète au sein de la commission électorale. Ce vendredi, l'ambassadeur des États-Unis au Kenya, Bob Godec, a exhorté les Kenyans à la patience et leurs leaders à recourir aux voies légales prescrites en cas de désaccord sur les résultats du scrutin. Un message déjà martelé hier par le département d'État américain à Washington, John Lindon.
Nous exhortons les partis à attendre pacifiquement et patiemment l'annonce officielle des résultats par la commission électorale, a déclaré le département d'État américain. Washington demande à cet organe de garantir l'équité du scrutin. Si des candidats contestent qu'ils le fassent selon la voie constitutionnelle et non pas par des menaces ou des actes de violence, a estimé la diplomatie américaine. Les chiffres provisoires de la commission électorale donnent une très large avance au président sortant Uhuru Kenyatta. L'opposition a exigé hier que son candidat Raila Odinga soit déclaré vainqueur au lendemain de violences sporadiques qui ont fait 4 morts.
En RDC, un rapport d'une coalition de la société civile regroupant notamment la Ligue des électeurs et l'Association congolaise de défense des droits de l'homme, ACIDH, estime ce vendredi que le président Joseph Kabila cherche non pas à préparer son départ, mais plutôt à renforcer son pouvoir. Les auteurs du document déplorent ce qu'ils appellent l'application calamiteuse de l'accord pouvoir-opposition de la Saint-Sylvestre, censé conduire le pays vers des élections. 7 mois après cet accord, Joseph Kabila est toujours au pouvoir et l'opposition exige toujours les élections avant la fin de l'année. Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, appelle à la poursuite des concertations.
Nous pensons que ces acteurs pourraient faire preuve de bonne foi pour faciliter l'organisation des élections dans le respect du délai convenu dans l'accord politique. Et nous pensons également que ces parties prenantes pourraient arriver à dégager un consensus pour la redéfinition de la séquence électorale en privilégiant l'élection présidentielle. Il est facile à organiser en tenant compte du temps. Mais au-delà des parties prenantes de manière globale, nous avons également pensé aux institutions de la République, Assemblée nationale, au Sénat, à la CENI, au gouvernement et également au CNSA qui est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice en RDC. Violence en RCA, la Centrafrique est menacée par une prolifération de groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles, provoquant une partition de fait du pays. C'est ce qu'affirme le rapport d'un groupe de réflexion publié jeudi au moment où les violences redoublent et où l'ONU évoque un risque de génocide. Le document souligne que la lecture confessionnelle du conflit n'est plus la seule valable, car certains groupes armés, autrefois ennemis, s'allient ponctuellement, selon un agenda politique propre. L'ex-Séléka s'est ainsi divisé en 8 groupes armés, tandis que les milices anti-Balaka se sont divisées en 4 groupes distincts. La publication du rapport intervient alors que des tueries ont fait au moins 60 morts depuis début juillet dans le pays, de Bangassou et de Gambo dans le sud-est à Ngaoundaï dans le nord-ouest, en passant par Alindao dans le sud.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, l'ONU dénonce la présence d'enfants soldats dans les rangs des groupes armés s'affrontant dans le nord et le fait que des prisonniers mineurs sont actuellement détenus par l'ex-rébellion dominante Touareg CMA dans son fief de Kidal. Malgré un accord de paix signé en mai-juin 2015, les combats ont repris ces dernières semaines entre les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme et les groupes de la coordination des mouvements de l'Azawa de la CMA. Sur les 33 personnes actuellement détenues par la CMA à Kidal, 8 sont des enfants, a indiqué dans un communiqué la division des droits de l'homme de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. La MINUSMA a également détaillé des violations des droits de l'homme perpétrées dans les 2 camps et relevées lors de 7 missions sur le terrain effectuées par son personnel depuis 1 mois. Sahel toujours, Johan Gustafsson, un ex-otage suédois détenu par Al-Qaïda au Mali pendant plus de 5 ans avant d'être libéré en juin, a dénoncé jeudi le versement de rançon de ses affaires d'enlèvement. La réaction d'Amédou Ould Abdallah, ancien fonctionnaire de l'ONU, actuellement directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Sahara.
Je pense que beaucoup de personnes d'institutions dans le Sahel, donc au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, en particulier, sans mentionner le Tchad, se posent des questions. Ces libérations successives, donc les deux otages ont été libérés rapidement. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que la libération s'est faite loin des palais présidentiels, s'est faite loin de la présence de la presse et des caméras de télévision, et s'est faite loin des déclarations convenues de remerciement, et elle s'est faite aussi sans compensation de couverture, parce qu'on n'a jamais parlé d'argent payé, même si tout le monde sait qu'il a été payé. On a surtout vu des prisonniers proches des ravisseurs être libéré. Or, cette fois-ci, donc, ni caméra, ni discours de remerciement, ni libération des prisonniers. Et c'est une nouvelle, donc, donne qui se développe au Sahel et qui mérite d'être mieux examinée et mieux discutée.
Le directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Sahara Amédou Ould Abdallah, joint à Bruxelles, en Belgique. Crise migratoire maintenant, retour sur la tragédie des migrants au large du Yémen dont nous vous parlions hier, à savoir les quelques 300 Africains jetés à la mer en 24 heures par des passeurs, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Yacouba Oudorgho a joint Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM.
On a 150 en total qui ont été mis en mer. Il y a 13 qui sont disparus, 6 qui sont morts. Hier, on a trouvé qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes en total. Alors, c'est plus ou moins 100 personnes qui ont été sauvées.
Est-ce qu'ils avaient payé leur passeur et à combien la traversée?
Ils ont payé presque 100 dollars chacun. Normalement, ça doit être ce qu'il faut payer pour faire le trajet. Mais c'est évident qu'aussi, souvent, ils demandent jusqu'à 1000 dollars. Quand ils arrivent à Yémen, ils les mettent en prison et ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux.
On sait que le Yémen n'est pas leur destination privilégiée dans la mesure où le Yémen aussi est déchiré par la guerre. Où est-ce qu'ils vont?
La plupart essaient d'aller en Arabie Saoudite ou bien sur le Golfe. Mais Yémen, c'est très difficile parce que c'est un pays en guerre. Il y a le choléra partout, il y a de famine aussi. C'est une situation très, très, très difficile pour eux.
Le même phénomène est observé dans le désert du Ténéré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela?
Il faut beaucoup plus d'assistance. Il faut aider les gens de rester chez eux, d'avoir des jobs chez eux. L'idée que ces jeunes de 16 ans vont chercher les emplois en Arabie Saoudite. C'est pas bon, ils sont pas très bien reçus là-bas. Souvent, ils sont expulsés, sont exploités. Alors, c'est une situation très, très difficile. Sur le côté humanitaire, c'est très dangereux. L'OIM est là pour les soutenir, pour les aider, pour trouver les vulnérables, pour donner de l'aide et pour les aider à retourner chez eux si c'est ça qu'ils veulent.
Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM, joint à Genève, en Suisse. Actualité américaine, le président des États-Unis, Donald Trump, a défendu hier avec énergie sa mise en garde à la Corée du Nord, à qui il a promis le feu et la colère. Le chef de l'exécutif américain a même estimé que cette mise en garde n'était pas peut-être assez dure. Morgan Guiriec.
Depuis son golfe de Bedminster, dans le New Jersey, où il passe des vacances, le président Trump a déclaré qu'il est grand temps que quelqu'un parle haut et fort pour les habitants de ce pays et les habitants d'autres pays. Il a refusé de commenter sur d'éventuelles frappes préventives visant la Corée du Nord pour contrer le développement de ses programmes nucléaires et balistiques. Après un tweet menaçant du chef de la Maison-Blanche, affirmant que l'arsenal nucléaire américain était plus fort et plus puissant que jamais, Pyongyang a présenté hier un projet détaillé pour tirer une salve de 4 missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam dans le Pacifique. Donald Trump a réagi hier affirmant que si la Corée du Nord fait quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en songeant à attaquer des gens que nous aimons ou nos alliés, il devrait être très très inquiet car des choses qu'il n'avait jamais cru possibles vont leur arriver.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.